Voilà, bonjour à tous. Je vous propose du coup d'ouvrir la parole de Dieu ce matin. Et voilà, il nous reste deux attributs de Dieu. Comme vous savez, on entame une série cet été sur les attributs de Dieu. Il nous en reste deux et ce matin, c'est un attribut particulier. Alors, vous avez dû peut-être le deviner, donc qui est la sainteté. Dieu est saint, ce sera le titre de mon message, un Dieu saint. Et une thématique du coup un peu particulière ce matin puisqu'elle va nous entraîner dans une thématique. Je ne sais pas quand on verra la fin, la thématique un peu de l'année à venir, voire peut-être même plus, puisqu'il y aura 8 séries de prédications donc sur le sujet, et voilà, sur la sanctification et tout ce qui est en lien avec la sainteté. Est-ce que vous voyez l'écran? Parce que ce matin j'ai mis des images, j'ai mis pas mal de choses pour que ce soit un peu plus clair, donc il faut que vous arriviez à voir. C'est important. Je vous propose du coup de prendre Ésaïe chapitre 6, à partir du verset 2 au verset 6. Je vous invite à prendre vos Bibles. Prenez vos Bibles, mes frères et sœurs, ça permet de pouvoir suivre. Le texte ne va pas rester, du coup, toute la prédication. Voilà, Ésaïe chapitre 6, verset 2 à 6. Ésaïe, on est dans l'Ancien Testament, un des grands prophètes de l'Ancien Testament, chapitre 6. Versets 2 à 6. Avant de commencer la lecture, parler un peu de quelques mots d'introduction quand même sur ce sujet. Lorsqu'on dit, on entend souvent dire Dieu est saint, mais dans la vie de tous les jours, quand vous allez au travail ou même vous parlez à vos voisins ou vos amis, on n'utilise pas beaucoup ce mot. Donc, à moins que vous parliez à tout le monde, oui, je ne sais pas comment vous parlez, mais c'est pas un mot qu'on utilise dans notre quotidien et qui c'est un mot qui est surtout présent dans notre relation à Dieu, dans notre Église. Ce matin, alors petit exercice, ça va être intéressant, vous allez me dire, je suis taquin ce matin, mais non, c'est normal. On a chanté Dieu est saint. Vous avez chanté ce matin, il y avait plein de chants Dieu est saint, Dieu est saint. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginons que moi je n'y connais rien du tout, j'arrive ici, j'entends Dieu est saint, ok c'est intéressant, qu'est-ce que ça veut dire? Comment on peut l'expliquer? Il est sans péché, ouais. Il est pur. C'est intéressant pour savoir si vous avez compris ce que vous chantez, parce que sinon, on met du Céline Dion la prochaine fois, vous comprendrez mieux les paroles, hein. Donc, c'est important de savoir ce qu'on chante. Ah, ouais. Et là, on a les deux définitions. Parce que dans la Bible, le mot saint, il y a deux définitions. La première définition, c'est ce que Gilles a dit. Est-ce que vous avez entendu ce que Gilles a dit? C'est mettre à part, le terme hébreu, c'est mis à part. Dieu est un être qui est mis à part. Il est au-delà de la création, il nous dépasse. Dieu n'a de compte à rendre à personne. Quand nous sommes bénis, il n'a pas donné d'explication. Quand nous souffrons, Dieu n'a pas à se justifier. Parce que sa sagesse est infinie, elle nous dépasse. On peut pas le comprendre. Et ça signifie la sainteté. Dieu est à part. Et la deuxième, et qui rejoint la première définition du terme sainteté, c'est que Dieu ici est pur, sans péché, et surtout, la Bible ici précise de manière assez claire, il n'a rien à voir avec le mal. Dieu n'a aucun lien avec le mal, de près ou de loin. Quelquefois, on peut le penser. Dieu utilise des fois, on pense, Dieu envoie le mal, mais non, c'est pas ce que la Bible nous montre, Dieu n'a rien à voir avec le mal, bien au contraire, il l'a en horreur. Ça va? Et ce matin, du coup, voilà, on va un peu voir un peu le sujet en trois points. La sainteté inégalée de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Finalement, un Dieu saint. Notre prise de conscience de notre péché devant sa sainteté. Et en dernier point, la purification que Dieu offre accomplie pleinement en Jésus-Christ. On commence notre lecture, Ésaïe chapitre 6, versets 2 à 6. Des anges flamboyants se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. Donc lui, c'est le prophète Ésaïe dont il est question. Deux leur servaient à se cacher le visage, deux à se voiler le corps et deux à voler. Ils criaient l'un à l'autre. Saint, saint, saint est le Seigneur de l'univers, la terre entière est remplie de sa glorieuse présence. Leur voix faisait trembler les portes sur leurs pivots et le temple se remplit de fumée. Je dis alors, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures et j'appartiens à un peuple aux lèvres tout aussi indignes de lui. Or j'ai vu de mes yeux le roi, le seigneur de l'univers. Mais l'un des anges flamboyants vola vers moi avec des pincettes, il tenait une braise qu'il avait prise sur l'autel. Il en toucha ma bouche et me dit, ceci a touché tes lèvres, ton indignité est supprimée, ton péché est effacé. Amen. C'est un texte sans doute que vous connaissez, assez connu dans la Bible, de cet épisode du prophète Ésaïe qui va rencontrer cet ange et finalement il va voir la présence de Dieu, plus précisément sa sainteté. Et c'est intéressant du coup de voir dans le récit un peu comment tout cela se découle et on arrive sur ce premier point. La sainteté de Dieu est absolue et glorieuse. On vient de le dire, la sainteté de Dieu elle a deux significations. Le terme, en tout cas hébreu, a deux significations. Mis à part, la sainteté de Dieu le met à part de tout le reste, à part de la création. Dieu n'est pas comme nous. Et puis la deuxième signification, c'est la pureté, la séparation du péché. Dieu est considéré comme absolument saint, tout complètement saint. Il est totalement distinct du mal, parfaitement juste. Dans l'Ancien Testament, et comme on peut le voir, le prophète Ésaïe a eu une vision de Dieu sur son trône. Entouré d'anges, des séraphins en particulier, ce sont des anges particuliers, qui vont crier « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ». Trois fois, ils vont crier « Saint ». Et la triple répétition du mot « Saint » ici montre, dans la Bible ici, que c'est quelque chose d'assez unique, et dans la tradition juive, quand on répétait trois fois un terme, ça montrait ici l'importance, ici, de ce que Dieu est. Dieu est saint. Il est complètement saint. Et puis, ça rejoint la Trinité. Dieu est trois fois saint. De par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ça va ? Ça, c'est sur la sainteté de Dieu. C'est le côté un peu informatif ce matin. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pour nous, c'est intéressant, mais il y a des conséquences à ce Dieu saint pour nous. Alors déjà, pour illustrer la sainteté, pour bien qu'on comprenne, c'est bien de partir et qu'on ait tous un peu la même base, j'ai pris un exemple. Et pour comprendre finalement qu'est-ce que ça veut dire dans ces deux termes de sainteté, mise à part et pureté, j'ai pris l'exemple avec le soleil. J'ai mis une image d'ailleurs. Donc voilà, j'ai mis un soleil, et le soleil, la sainteté de Dieu, on peut la comparer un peu au soleil. Voilà, c'est un exemple, hein, je précise. Ça ne veut pas dire que ce que je vais dire là, attention, hein, ne me faites pas dire ce que je ne vais pas dire. Ça ne veut pas dire que le soleil est Dieu et qu'il faut adorer le soleil ou que le soleil est saint. Hein, voilà, on n'est pas dans le culte du soleil ici. Je préfère préciser. C'est un exemple, c'est une illustration. Donc ici, le soleil, il est unique. Dans notre univers, on a un soleil. Il y en a plusieurs, mais notre soleil, il est unique dans ce qui le compose. Il est source. Il est la source de toute forme de vie. S'il n'y a pas de lumière, s'il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de vie. Il est puissant parce qu'il brille fort. Et du coup, dans tous ces aspects-là, il est unique. Donc, j'ai mis ces trois points. Unique, source de vie, puissant. Du coup, on peut dire que le soleil est un être à part, est un astre à part. Et du coup, quelque part, il est saint. Il est à part. Il n'y a pas deux soleils dans notre univers qui sont identiques à lui. Il est source de vie. Il y a beaucoup de choses qui se rapprochent un peu de ce que Dieu peut être. Mais ce n'est pas tout. On peut pousser la comparaison encore plus loin, j'ai mis une autre image. C'est que le soleil, dans sa sainteté, elle ne se limite pas que à la boule de feu. Sa zone, ici, autour du soleil, est tout aussi sainte. Car il éclaire, il chauffe, et plus on se rapproche du soleil, plus son intensité se ressent. Et si on se rapproche trop près, d'ailleurs vous n'aurez même pas le temps de toucher, que tout brûle. Le soleil brûle. Et du coup, dans sa sainteté ici, et dans l'aspect sainteté, il y a différentes... Voilà, il y a une intensité dans la sainteté, et plus on se rapproche de lui, plus on ressent la sainteté. Pour Dieu, c'est la même chose. Dieu est un Dieu qui est clair par sa sainteté, et sa sainteté, du coup, ici, elle va éclairer tout ce qui est impur. La présence de Dieu ici, elle est dangereuse. Pas dangereuse dans le sens qu'elle est toxique, mais elle est dangereuse parce que son extrême pureté consume toute impureté. J'ai mis une image d'ailleurs qu'on va retrouver dans la Bible, où la Bible va nous dire que la présence de Dieu dévoile toutes les mauvaises actions des hommes. Ça, c'est sa sainteté qui la dévoile. L'impie, le méchant, n'est pas à l'aise dans la présence de Dieu. Parce que en lui, du coup, il y a la lumière qui éclaire. C'est l'évangéliste Jean qui va en parler. L'apôtre Jean. Dans Jean chapitre 1, vous lirez, hein, l'évangile. La lumière fut. Et les hommes l'ont rejetée. Parce qu'ils ne voulaient pas que leur acte soit mis à la lumière. Et ça, c'est la sainteté de Dieu. Dieu, du coup, quand il éclaire la vie de quelqu'un, il l'éclaire complètement. Et face à cette sainteté, du coup, les hommes, eux, ne sont que éblouis et surtout, leur misère est dévoilée. On l'a dans ce passage, Ésaïe va le vivre. Le prophète Ésaïe, hein, qui va dire « Malheur à moi, je suis un homme impur ». Donc voilà, pour un élément de comparaison entre finalement qu'est-ce que c'est la sainteté de Dieu, voilà, on peut avoir en tête du coup le soleil et du coup son action. Est-ce que ça va ? Super. Dieu est absolument pur, ce qui signifie du coup qu'il ne tolère pas le mal. Il est saint et du coup le mal du coup est à son opposé. Et cela, ça nous amène à nous interroger sur notre propre condition, car en tant qu'être humain, nous sommes loin d'être parfaits. Si Dieu est saint, comment nous pouvons entrer en relation avec lui? Comment nous, qui sommes cet homme, qui sommes là avec nos défauts, nos imperfections, nos péchés, comment nous pouvons rentrer en contact avec ce Dieu saint, même survivre face à lui? Et ça, c'est, j'arrive sur le coup sur le deuxième point, la sainteté de Dieu révèle notre propre péché, notre propre misère. En voyant la sainteté de Dieu, le prophète Ésaïe, dans le texte, il est immédiatement conscient de son propre état de pécheur. Il va dire ceci, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. » Nous réalisons du coup que nous ne pouvons pas nous tenir devant un Dieu saint en restant tel que nous sommes. Lorsque nous comprenons la pureté et la perfection de Dieu, cela met en lumière notre propre imperfection. Et la sainteté de Dieu ici, elle agit un peu comme un miroir qui révèle notre péché. La Bible va dire d'ailleurs dans Romains chapitre 3 que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et cette sainteté du coup met en lumière notre besoin de purification et de pardon. Alors vous allez me dire, mais oui, mais peut-être que nous on arrive, et des fois peut-être vous vous dites même ce matin, hein, moi ça va, je me sens bien, je me sens pas impur, je me sens pas imparfait, malgré ce que Paul y peut dire, que tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu, moi je le ressens pas. Je vous ai une illustration. Une illustration, imaginons que vous êtes dans une salle pleine de miroirs très sales. Tous les miroirs dans la pièce sont sales, alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais bon voilà, c'est mon histoire, hein, j'invente. Et vous vous rendez pas compte de l'état de vos vêtements. Puisque les miroirs eux-mêmes sont sales, donc voilà. Donc vous estimez du coup que c'est votre état naturel, que vous êtes propre, parce que voilà, c'est l'image que ça renvoie. Imaginons que dans cette salle-là, on met un miroir propre. Vous allez vous rendre compte du coup que vous êtes sale. La sainteté de Dieu, c'est ce qu'elle fait. Elle révèle la saleté que nous n'avons pas vue. Et du coup, c'est pour ça que les hommes, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ne voient pas leur état. Ils pensent qu'ils sont bien. Parce qu'en face d'eux, ils n'ont pas la sainteté de Dieu, ils n'ont pas la présence de Dieu. Ils n'ont que des miroirs sales, qui leur renvoient leur propre misère, leur propre péché. Comme Ésaïe, ou peut-être comme chacun de vous ce matin, si vous avez eu l'occasion de le vivre, il en était de même pour nous. Avant de rencontrer le Seigneur, nous ne voyons pas dans quel état nous étions. Et puis le Seigneur est venu frapper à notre porte. Il nous a montré finalement qui il était, et ça a entraîné en nous, du coup, qu'on a ouvert nos yeux, on a vu notre propre état. Nous avons aperçu que nous étions mauvais, que nous étions bien loin de ce que Dieu attend. C'est ce que la Bible ici appelle la repentance. Mais pour passer à la repentance, il faut savoir déjà prendre conscience de la sainteté de Dieu et de son état. Est-ce que ce matin, vous avez déjà vécu cela? Ça fait longtemps, peut-être. Alors, si vous ne l'avez pas vécu, mes frères, je vous encourage à le vivre. À prier le Seigneur, que le Seigneur vous éclaire. Qu'il éclaire vos vies pour qu'il puisse vous montrer dans vos vies ce qui ne va pas. Parce qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et le Seigneur, du coup, pourra éclairer, il pourrait voir, du coup, que finalement, vous ne pouvez rien faire sans lui. Sa sainteté vous éclairera. Prendre conscience de la sainteté de Dieu amène à la repentance. Celui qui ne se repent pas de ses fautes, qui ne se détourne pas de ses mauvaises voies, n'a pas connu Dieu. C'est ce que la parole nous dit. Dans Ézéchiel, il est dit un passage assez dur. Si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité. Cette parole est reprise dans le Nouveau Testament. Finalement, celui qui ne se détourne pas de ses mauvaises voies n'a pas connu le Seigneur. Et ce qui l'attend, c'est la colère de Dieu. Parce que Dieu est saint. Devant Dieu, nous ne pouvons pas cacher nos péchés. On peut le cacher à nos proches. On peut le cacher à nos amis. On peut le cacher à tout le monde. D'ailleurs, bien souvent, on le cache pas très longtemps. La vérité, elle monte. Elle surgit toujours tôt ou tard. Mais face à Dieu, Dieu lui voit nos cœurs. Sa sainteté expose nos faiblesses et nos fautes. Et comme Ésaïe, nous réalisons notre besoin de purification. Ce matin, c'est un message particulier puisque la tentation pour nous, elle est forte. La tentation, c'est d'écouter ce message et de dire « Ah, moi je pense à un tel. Moi je pense à lui, lui il a besoin de faire ça. » Non, 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 non. Ici, nous sommes tous coupables. Et il s'agit, quand on écoute là, de se poser la question. Si vous ne comprenez pas ce matin, vous allez comprendre durant les prochains mois, même l'année qui arrive. Parce qu'on va être dans la pratique. C'est dans ma vie quelque part, face à ce Dieu saint, où est-ce que j'en suis? Ce n'est pas une option que Dieu nous présente, puisqu'il nous le dit. Hein. Celui qui ne se détourne pas de ses mauvaises voies mourra dans son iniquité. D'ailleurs, la suite du passage dans Ézéchiel, on le verra cette année, est assez dure. Parce que Dieu va endurcir le cœur du peuple. C'est terrible. D'ailleurs, ça veut dire quoi endurcir le cœur? On le verra. Mais ici, Dieu, du coup, est radical. Il est saint. Et il attend, du coup, pour entrer dans sa présence, que nous soyons saints. Alors, est-ce qu'on peut cacher nos fautes à Dieu? Non, on vient de le dire. La question ce matin, du coup, c'est est-ce qu'on a déjà vécu l'expérience qu'a vécu le prophète Ésaïe? Voir la présence de Dieu, ne pas être dans la peur, du coup, mais dire, confesser son péché. C'est ce que Ésaïe va faire. Et c'est ce que Dieu va répondre après. Il va le purifier de toute iniquité. Il va enlever son péché. Parce que finalement, si on s'arrête juste à là et on considère que Dieu éclaire nos fautes, cela peut nous laisser désespérer. Comment nous qui sommes misérables, nous pouvons survivre face à ce Dieu qui est saint? Mais heureusement, Dieu a pourvu une solution, et c'est ici que nous arrivons à notre troisième point, l'importance finalement ici de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est le troisième point, la réponse à notre besoin de purification. Parce qu'on a besoin d'être purifié. Dans ce passage, un des anges va prendre une pierre ardente, de la braise, sur l'autel, et il va toucher les lèvres d'Ésaïe, ce qui symbolise la purification de son péché, en disant « Ton iniquité est enlevée, ton péché est expié, il est pardonné. » Et ici, c'est une image puissante de la grâce de Dieu. Ésaïe ne pouvait rien faire. De lui-même, il ne pouvait rien faire. C'est Dieu qui intervient pour enlever son péché. Et dans l'Ancien Testament, cette purification était symbolique. Mais dans le Nouveau Testament, elle va s'accomplir pleinement en Jésus-Christ. Et c'est là que l'Évangile brille. Si nous étions laissés à nous-mêmes, la sainteté de Dieu nous condamnerait. Car nous ne pouvons pas nous purifier par nos propres forces, par nos propres efforts. Mais Dieu, dans son amour, le Seigneur a envoyé Jésus-Christ, son Fils, pour résoudre ce problème. Et Jésus est venu pour nous rendre saints et nous permettre d'entrer dans la présence de ce Dieu saint. Jésus est la solution à notre incapacité à nous purifier devant Dieu. Et en Christ, la justice et la sainteté de Dieu sont pleinement satisfaites. À la croix, Jésus va prendre sur lui nos péchés. Et c'est ce qu'on va trouver dans 2 Corinthiens. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Cet acte de Dieu, c'est la plus grosse injustice du monde. Un Dieu saint, déjà une personne innocente, c'est déjà injuste, mais un Dieu saint, créateur de toutes choses, celui qui a été offensé quand même, C'est lui qui va souffrir en solution pour nous. Et cette plus grande injustice pour nous, elle nous est bénéfique. Elle nous permet d'entrer dans la sainteté. Dieu nous appelle saints. Pas tout le monde. Uniquement ceux qui mettent leur confiance en lui. Et Jésus, du coup, il est cette pierre ardente. Il est cette braise qui purifie. Cette braise qui ne purifie pas tous les hommes. Et ce matin, il ne faut pas croire, mes amis, mes frères et sœurs, que Dieu purifie tous les hommes. Ce n'est pas vrai. Uniquement ceux qui le désirent. Dieu s'est mis à disposition, mais le bout du chemin n'est pas terminé. Pour que cela s'accomplisse, il faut que tout homme reconnaisse ses fautes, reconnaisse sa misère. Et pour cela, il faut l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Parce que l'orgueil humain, il est bien là. Et comme Paul, comme les apôtres, pour que finalement nous puissions reconnaître face à sa sainteté, le besoin de pouvoir être pardonné, le besoin de pouvoir être saint en son nom. Imaginez que sur votre corps, vous êtes couvert de taches qui ne partent pas. Bon, j'espère que c'est pas votre cas, mais voilà, ça peut arriver. Hein. Et je prends un autre exemple, peut-être un peu moins dur. On va pas parler de maladie ce matin. Imaginons, voilà, vous avez un feutre indélébile, il part vraiment pas ce feutre. Voilà, ça n'existe pas en mer. Voilà. Et vous gribouillez dessus, et voilà, vous avez des taches à vie de feutre indélébile sur votre corps. Vous avez essayé de les laver, mais ça, rien ne fonctionne, ça ne part pas. Et quelqu'un arrive et vous donne du coup un vêtement neuf, propre, pour que finalement vos vêtements déjà qui sont souillés ne paraissent plus souillés. Et quelque part, il vous donne même une nouvelle peau pour que vous paraissiez nouveau. Ce que on ne peut pas obtenir par nous-mêmes, finalement, cette personne nous la donne. C'est ce que Jésus a fait pour nous. Il nous donne sa justice en nous purifiant. Et comme Ésaïe, nous avons besoin d'une intervention divine pour être purifiés. Jésus est cette intervention. En lui, nous recevons le pardon et la purification totale. C'est par lui que nous pouvons entrer dans sa présence, dans la présence du Dieu qui est saint, sans crainte. Et si crainte il y a, comme le prophète Ésaïe, nous devons ressortir aussi comme le prophète Ésaïe. Rassurés parce que Dieu nous a pardonnés. Amen. Pour conclure, la vision d'Ésaïe ici nous rappelle trois vérités cruciales. Je crois que je les ai mis, Leïna. Voilà, trois points. On a un peu parlé ce matin. Dieu est saint. Et sa sainteté ici est incomparable. Alors ça viendra après. C'est mon premier point. Deuxième point, c'est la sainteté de Dieu qui révèle notre péché, comme avec Ésaïe. Et cette sainteté qui révèle notre péché est importante. Elle nous permet de considérer notre propre misère humaine. Et en Jésus-Christ, nous sommes purifiés. Alors pour nous, de manière pratique, du coup, il nous faut reconnaître la sainteté de Dieu. C'est la première étape. Celui qui ne reconnaît pas que Dieu est saint, finalement, ne peut devenir saint lui-même. Il ne peut même être enfant de Dieu. Et tous les hommes ont besoin de reconnaître finalement ce que Dieu est. Il est un Dieu saint. Et du coup, pour s'approcher de lui, il faut être saint. Ce matin, on peut prendre un moment pour réfléchir à la grandeur et à la pureté de Dieu. Comment, finalement, ce Dieu saint change votre vision de lui? Est-ce que le fait de savoir Dieu est saint, ce matin, vous allez ressortir en disant, c'est intéressant, et ça, c'est nul? Ou est-ce que cette vision de Dieu saint, elle aura un impact sur votre vie? Comme elle a eu un impact pour le prophète Ésaïe. Parce que Dieu n'a rien fait avec le prophète Ésaïe. Hein. Le prophète Ésaïe, il aurait pu rien dire. Et il n'y aurait rien qui se serait passé. Mais il va s'exclamer, malheureux que je suis. Je suis un pauvre homme pécheur. Et parce qu'il a proclamé sa faute, parce qu'il a vu la sainteté de Dieu, Dieu a enlevé ses fautes. C'est le deuxième point. Accepter la purification en Jésus-Christ. Si jamais ce matin vous n'avez pas accepté le pardon de Dieu, aujourd'hui, il est encore temps. Encore temps de recevoir cette purification, de saisir l'amour de Dieu manifesté. Ce Dieu saint n'est pas un Dieu, même s'il est mis à part, mais cette sainteté de Dieu, elle est relationnelle. Dieu nous attend. Et il est tellement relationnel qu'il s'est donné. Lui qui est saint, il s'est chargé de tous les péchés. Et puis le troisième point, c'est vivre en réponse à la sainteté de Dieu. La sainteté de Dieu vous appelle à une vie différente. Comment finalement aujourd'hui nous vivons la sainteté de Dieu? Voilà, trois questions. Et puis je vais mettre deux textes. Il y en a plusieurs, mais deux textes peut-être qui parlent un peu plus par rapport au sujet de ce matin. Dans Romains chapitre 6, verset 22, « Mais maintenant que vous avez été libérés du péché et que vous êtes devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la progression dans la sainteté et pour fin la vie éternelle. » Hébreux 12, « Recherchez la paix avec tous et la progression dans la sainteté. Sans elle, personne ne verra le Seigneur. » Du coup, il s'agit d'un sujet important pour nous chrétiens. Comment nous vivons du coup cette sainteté de Dieu dans nos vies? Est-ce que nous l'étouffons comme les religieux de l'époque, comme les chrétiens de l'époque, les pharisiens, les sadducéens? Ou est-ce que nous sommes devant Dieu authentiques? Nous dévoilons devant lui tout ce que nous sommes pour que lui puisse agir. J'ai trouvé un passage, voilà, c'est un livre anglais, c'est un pasteur théologien, John Owen, j'ai mis sa citation, qui va dire cette phrase très juste. Alors voilà, il va écrire un livre qui va se faire le commentaire de l'Épître aux Romains et surtout Éphésiens 2, qui va parler de la sainteté de Dieu, et voilà, le titre d'ailleurs, voilà, péché et tentation, voilà, il va en parler longtemps en anglais. J'ai traduit sa phrase et il dit ceci, en ce moment même, et c'est valable pour nous, ce matin, on pourrait dire, chacun d'entre nous qui est en Christ est en train de tuer le péché ou d'être tué par le péché. Il n'y a pas de stagnation. Soit nous progressons, soit nous sommes morts-vivants. Il fait le commentaire ici d'Éphésiens 2, où il est question de la mort spirituelle. Ceux qui sont vivants, mais qui au fond d'eux-mêmes sont morts. Paul aurait pu employer le terme zombie en 2024. Ceux qui paraissent, qui bougent, ils sont là, ils paraissent vivants, mais au fond d'eux, ils sont morts. Et ici, John Owen, il n'invente rien. Il reprend finalement, du coup, toute la théologie de la sainteté de Dieu dans le Nouveau Testament, ce que Paul va en dire, ce que le prophète Ésaïe va en dire. Et il s'adresse ici aux choses intéressantes. Il ne s'adresse pas à des non-croyants. Il s'adresse à des chrétiens. Parce que la sainteté, elle ne s'applique pas à tout le monde, elle s'applique aux chrétiens, ceux qui ont connu le Christ, et que Dieu appelle à vivre en sainteté. Pour savoir du coup si nous sommes vraiment chrétiens ce matin, c'est simple. Et je vous propose trois questions. Et voilà, prendre peut-être un peu de temps chacun, pour si vous avez une feuille pour noter, si vous avez vos téléphones, notez dans vos téléphones. Je reviendrai régulièrement chaque dimanche sur ce sujet pour que vous puissiez avancer. C'est le but, hein, la sanctification, c'est progresser de mieux en mieux. Trois questions pour savoir si vraiment ce matin nous sommes dans l'état d'esprit du chrétien. Si nous sommes vraiment chrétiens ce matin ou pas. Première question. Est-ce que face à ce Dieu saint, nous voyons notre misère et nos fautes? C'est des questions qui s'appliquent aux chrétiens. Du coup, ce matin, moi chrétien, est-ce que face à ce Dieu saint, je vois ma misère et ma faute? Ou est-ce que je ne la vois plus? Deuxième question, est-ce que j'ai vécu la repentance? Ça, c'est valable pour tout le monde, chrétien ou pas. Et si je suis chrétien, est-ce que je continue de la vivre? Et troisième point, est-ce que je mets tout en œuvre pour mettre à mort le péché dans ma vie? Moi, j'ai fait l'exercice. Hein. Voilà, c'est trois questions que John Owen, d'ailleurs, il va présenter. C'est dur. Hein. Je me suis déçu moi-même. Mais quelque part, c'est positif, parce qu'au moins, ça permet de voir un peu où est-ce qu'on en est. Le but, pour nous, c'est de ne pas lâcher le péché. J'ai pris l'image tout à l'heure de ce vêtement propre que Dieu vient nous donner par rapport à ce feutre indélébile qui marque nos peaux. Malheureusement, ce vêtement propre, il ne le reste pas forcément longtemps. Parce que ce vêtement propre, il vient pas effacer nos fautes. Dieu efface pas nos fautes, il les couvre. C'est différent. Et du coup, la nature pécheresse qui est en nous, malgré le fait que Dieu l'a vaincue, eh ben elle est encore là. Et quelquefois, elle ressurgit. L'encre indélébile, elle n'est pas sèche. Et quelquefois, le vêtement que Dieu nous donne, l'encre, elle réapparaît. Il y a des rechutes, là. Et ça, ça arrive. C'est pas normal, hein. Ça arrive. Si vous pensez que ça arrive pas, c'est que du coup, vous êtes vraiment peut-être mort, hein, mort vivant, là. Vous vous rendez plus compte. Et du coup, il vous faut le miroir de la sainteté de Dieu pour vous rendre compte de votre misère. Mais ça, c'est normal. Ce qu'on doit faire et ce que Dieu attend de chaque chrétien, c'est que quand l'encre ressurgit, que le chrétien, finalement, mette à mort, utilise l'encre effaçable de la sainteté de Dieu pour revenir sur le droit chemin. Ne pas laisser le péché gangréner. Parce que le péché, quand il gangrène, c'est ce que Paul va dire, il entraîne la mort au final. La mort de l'âme. Alors le combat contre le péché, c'est un combat de tous les jours. Le combat qui va durer jusqu'à la fin de nos jours d'ailleurs. Et il s'agit pour nous de ne pas le laisser se propager. Comme le dit la Bible, mettre à mort le péché seul, vous avez dû essayer, hein. On peut pas y arriver. On peut faire plein d'efforts, mais seul, c'est impossible. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous lui laissions faire. Nous laissons le Saint-Esprit qui habite dans nos cœurs, lui laisser la place. Une des clés dans la sanctification, c'est passer du temps devant Dieu. Dans la prière, la lecture de la parole, s'entretenir par des psaumes, des hymnes, des cantiques. Celui qui passe du temps dans la présence de Dieu s'entretient. Et du coup, il n'est pas tenté par toutes sortes de vices ou de péchés. Amen. Nous avons ici ce matin tous besoin du Christ pour mettre à mort le péché et que nous puissions du coup nous approcher de Dieu par la foi, en croyant que lui seul peut nous changer et peut nous donner la force pour avancer sur ce chemin de sanctification. Amen. Voilà, ce matin on a parlé surtout de Dieu et durant l'année qui arrive, à partir de mi-octobre, on parlera de manière plus pratique la sainteté de Dieu dans nos familles, dans nos couples, dans nos relations, voilà, plein de sujets. Donc et que cela puisse nous interpeller, c'est important ce matin. Qu'on puisse prendre quelques temps. Je vous ai laissé les trois questions. Est-ce que vous avez pu y réfléchir? Réfléchissez-y, hein, parce que c'est pas à la maison que vous allez réfléchir. Prenez un peu de temps et voilà, courbons nos têtes et que nous puissions nous remettre dans les mains du Seigneur, que nous puissions ce matin ressortir avec cette idée en tête. Dieu est saint, Dieu m'aime, voilà, est-ce que moi du coup je mets ma confiance en lui? Et ce matin dans ma vie, cerner une chose dans ma vie qui ne va pas. Si vous ne voyez pas, demandez à quelqu'un qui vous connaît, si vous êtes marié, encore mieux, à votre conjoint, il trouvera, c'est sûr. Donc et inversement, il ne faut pas que ce soit que dans un sens. Mais voilà, dans ma vie, aujourd'hui, en 2024, aujourd'hui on est le 22 septembre, aujourd'hui, moi, qu'est-ce que j'ai besoin d'avancer? Où est-ce que j'ai besoin de taper, de mettre à mort le péché dans ma vie? Et sur ce point-là, c'est du coup mettre tous les moyens, tous les efforts que je peux faire pour, oui, vaincre le péché, mais ça ne suffit pas. Compter sur la grâce de Dieu. Le Seigneur nous a donné ici le Consolateur, le Saint-Esprit, on va en parler, parce que le Saint-Esprit, c'est un puissant Consolateur. Et dans le chemin de sanctification, c'est lui qui opère. Ce n'est pas nous. Sur ces péchés, mon Dieu, que nous avons cernés ce matin et que chacun nous pouvons cerner, tu viens nous aider. Nous voulons, mon Dieu, ne pas diminuer, ne pas, mon Dieu, minimiser nos fautes. Mais dire comme le prophète Ésaïe, malheureux que je suis, je ne mérite que la mort. Et Seigneur, viens prendre la braise. Toi, Jésus, qui es cette braise qui purifie, touche nos lèvres. Dis seulement un mot, Père, et rends nos cœurs purs. Amen.